Customers are rushing to your store. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business, take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. shopify.com/theathletic. As you probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. Place your first bet on any game and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
Bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie d'Arpin Basu. Arpin, bonjour.
Bonjour.
Écoute, on est le vendredi 31 janvier 2020. Le Canadien a remporté hier un match à Buffalo face aux pauvres Sabres. Je dis pauvres Sabres, c'est pratiquement aussi pauvre. Le Canadien est pratiquement aussi pauvre, mais bon, entre les deux, je pense qu'il y a une équipe qui est encore plus mal en point que l'autre. Mais j'aimerais te lancer immédiatement sur la nouvelle qui est sortie il y a quelques minutes à peine, à l'effet que Cale Fleury était cédé au Rocket de Laval. Il va être en uniforme pour le Rocket ce soir. Je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes attendaient, le fait que le Canadien, tant et aussi longtemps qu'il décide de s'accrocher au mince espoir de faire les séries éliminatoires, qu'il puisse donner une chance à ces jeunes joueurs de jouer beaucoup.
Oui, puis il faut pas ignorer le fait que Jesperi Kotkaniemi était laissé de côté dans ce match-là à Buffalo, qui évidemment fait partie de cette discussion-là, parce que je pense que, jugeant simplement de la réaction sur les médias sociaux sur de cette décision-là, il y a plusieurs partisans qui croient que c'est un manque de vision derrière cette décision-là, qui a une vision à long terme qui devrait
prévaloir
dans ces décisions-là. Et alors c'est ça la difficulté quand t'es tellement dans une situation d'improbabilité. Canadien, je pense que leurs chances pour les séries sont aux alentours de 2% en ce moment. Mais quelque chose que je pense que la plupart des partisans, la plupart des médias, honnêtement, ignore souvent, c'est que ce sont des athlètes professionnels, ce sont des gars qui sont... La raison pour laquelle ils sont rendus où ils sont, c'est leur notion de compétition, à quel point les pourcentages sont pas importants dans leurs yeux, ils sont capables de faire l'improbable. Et c'est quelque chose qui est admirable d'une certaine façon, mais c'est vrai que peut-être les décisions du direction et même des entraîneurs devraient peut-être prendre un pas de recul et juste regarder le portrait au grand. Mais moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Academy cette fin de semaine, avec les deux matchs en deux jours, en fait. Mais tu sais, ça me surprendrait pas qu'ils jouent pas samedi. Mm-hmm. On verra. Mais c'est souvent le cas que Claude va prendre une victoire puis juste garder la formation telle quelle. Mais s'il joue pas toute la fin de semaine, là, ça devient une question de qu'est-ce qu'on fait avec Okanemi, qu'est-ce qu'on fait avec Ryan Poehling quand Jonathan Drouin revient, est-ce que lui va rester dans la formation? Le Valeur, je pense que tu l'as mentionné, on en discute entre nous depuis comme un mois de peut-être juste prendre tous les gars qui sont éligibles d'aller à Laval puis les envoyer là puis essayer de faire un run en série puis avoir ce sentiment-là d'avoir accompli quelque chose puis de jouer des matchs de conséquence. Puis je pense que c'est un débat intéressant parce que moi j'ai toujours cru que c'est mieux que pour un jeune de jouer dans la Ligue nationale, de jouer contre la compétition contre qui il va jouer le reste de sa carrière. Il y a une plus grande valeur de jouer genre 10-12 minutes dans la Ligue nationale que de jouer 18 dans la Ligue américaine. Ça, c'est mon point de vue là-dessus. Je dis pas que c'est le bon point de vue, mais c'est comme ça que je vois les choses. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Parce que je pense que c'est une discussion qui a de la mérite, puis c'est quelque chose que le Canadien va devoir pencher dessus. Il va falloir qu'il prenne cette décision-là très bientôt.
Il y a des bons arguments à amener des deux côtés. C'est ça qui fait que c'est une question aussi intéressante. Mais spontanément, moi, ce qui me vient en tête, c'est quelque chose d'un peu... On avait eu cette discussion-là à propos de Kotkaniemi au Mondial Junior. Je ne sais pas si on avait abordé la question dans le cadre d'un podcast.
C'était moi et Sean, c'est un des podcasts que toi, tu avais manqué. Mais moi et Sean, on a fait un podcast là-dessus en discutant effectivement cette question. Est-ce que le Canadien devrait envoyer Kotkaniemi au championnat du monde?
Alors, parce que... dans le cas du championnat du monde, du mondial junior que de la Ligue américaine, je pense que si Kotkaniemi était cédé à la Ligue américaine, il se dirait, je vais m'attendre, je crois suffisamment à mes moyens que si je suis cédé au Rocket de Laval, je m'attends à dominer. Si je domine, ben, c'est juste ce à quoi je m'attendais, il se passe rien là, c'est juste c'est la normale des choses.
Ouais.
Si ça fonctionne pas aussi bien que tout le monde et lui-même penserait que ça irait, ben là, il y a un problème qui se développe. Alors, je pense que, tu sais, Claude Julien, après le match hier, a mentionné le fait qu'il dit, ah, pour justifier sa décision de rayer Kotkaniemi de l'alignement, a dit, ben de la manière que ça va en ce moment, étant donné qu'il joue pas très bien, c'est pas bon pour sa confiance. Mais, qu'est-ce qui est le mieux pour la confiance d'un joueur? S'il se retrouve dans une situation où il s'attend lui-même à avoir du succès, puis il y en a, mais sauf qu'il c'est pas une occasion de valorisation pour lui.
Il n'y a pas grand-chose à gagner pour lui, c'est ça. Mais juste, il y a beaucoup de choses à perdre.
Exact. Puis, qu'est-ce qui est plus dommageable pour sa confiance? Est-ce que c'est de dire, étant donné que tu joues pas très bien puis que ça mine ta confiance, on va te retirer du jeu? Ou c'est constamment de dire, on te redonne un nouvel essai pour te réaligner? Parce que, tu sais, si Claude Julien dit, ben, moi, je vais mettre sur la glace les 12 joueurs, les 12 attaquants qui vont m'aider le plus à gagner, ben, j'ai beaucoup de misère à croire, en dépit de sa saison très difficile, que Kotkaniemi ne te donne pas une meilleure chance de gagner que Dale Weeds.
Ouais, effectivement, puis c'est ça l'argument. Ou Nate Thompson, tu sais, si jamais tu veux garder Kotkaniemi au centre. Parce que c'est difficile.
Ouais, mais dans un contexte à court terme où Claude Julien est dans une mentalité de dire je dois gagner ce soir.
Ouais.
Nate Thompson remplit un rôle que Kotkaniemi ne peut pas remplir.
OK, alors.
Remplir, tu sais, des avantages numériques, remporter des mises en jeu,
c'est
etc.
Sûr, c'est sûr.
Tandis qu'un ailier de quatrième, tu peux bouger bien des morceaux pour garder à la fois Kotkaniemi et Thompson dans ton alignement, puis faire écoper un gars que dont t'as ramassé le contrat l'année dernière et qui ne pensait même pas rejouer dans la ligne.
Ben moi le joueur que je, que je regardais pendant le match, c'était Nick Cousins qui jouait à droite de Max Domi. Et c'était Lekkonen,
ouais.
Alors, moi, j'étais comme, OK, il aurait pu jouer Kotkaniemi au lieu de Cousins, là, puis Cousins au lieu de lui, puis effectivement, oui, serait sorti de l'alignement. C'est difficile à mes yeux, en pensant à ça pendant que j'ai regardé le match à Buffalo, il y avait pas juste le fait de mettre un alignement gagnant contre les Sabres. Je pense qu'il y avait un certain message que Claude Julien voulait passer à Kotkaniemi en disant que, écoute, tu réponds pas à mes attentes, tu réponds pas peut-être aux attentes de tes coéquipiers, puis à certains moments donnés, il faut que je sois, tu sais, c'est pas seulement ta développement à toi auquel je dois m'en occuper, c'est le sentiment de toute l'équipe.
Ouais.
Et de voir que, si tes coéquipiers, ils diraient jamais ça, mais si tes coéquipiers voient que match après match, t'as de la difficulté, puis non seulement que tu les aides pas à gagner, mais des fois tu nuis à leur chance de gagner. À ce moment-là, si c'est le cas, et je dis pas nécessairement que c'est le cas dans le cas de Kotkaniemi, mais on peut pas cacher le fait qu'il y a un point en janvier. Il a terminé le mois de janvier avec un point. Alors, s'il produit pas offensivement, s'il connaît certaines lacunes défensives encore parce qu'il a 19 ans puis il est un des plus jeunes joueurs de la ligue. Si t'es dans une situation où tu veux garder Nick Suzuki au centre, et c'est évident que Max Domi joue mieux au centre qu'il joue à l'aile, qui pour une deuxième fois cette saison est assez évident, et que tu ramènes Gallagher dans la formation et que tu dois faire quelque chose avec Kovalchuk, et tout ça fait en sorte qu'il faut prendre une décision. Il y avait deux aspects à cette décision-là, puis les deux, je pense, a mené à Claude Julien de l'écarter de la formation. C'est un, que t'es meilleur avec une ligne de centre de Phil Dano, Nick Suzuki et Max Domi, que Max Domi à l'aile et Jesperi Kotkaniemi au centre de troisième trio.
Ouais.
Et que, tu sais, les décisions de qui joue ou joue pas sont basées sur le mérite et non seulement le développement. Et à ce moment-là, je pense que Claude Julien sentait une obligation de montrer à tout le monde que si tu mérites de jouer, tu joues. Je dis pas que Derwis mérite de jouer plus que Jesperi Kotkaniemi, c'est faux. C'est complètement faux. Je suis d'accord là-dessus. Mais je pense que il y avait plus derrière cette décision-là que simplement c'est quoi la meilleure formation qui me permet de gagner ce match-là spécifique.
Ouais.
Il y avait d'autres facteurs qui jouaient là-dedans, puis il y avait un certain développement aussi dans cette décision-là, que de juste de démontrer à ce jeune joueur-là que il y a des conséquences si après 5-10 matchs tu réponds pas à mes attentes, il va avoir une conséquence.
Mais en fait, il répond pas aux attentes. Julien lui-même a mentionné le fait d'avoir, vous savez, ça a été difficile. Il y a eu deux blessures cette année. Il a amené des facteurs
hors de son contrôle. Hors du contrôle de Kotkaniemi.
Exactement. Ouais. Puis faire en sorte, il a pas voulu du tout lui lancer la pierre ou jeter du blâme sur lui en disant il répond pas à mes attentes, justement. Mais en ce qu'il va dire publiquement et ce qu'il pense ou ce qui motive ses décisions, souvent ça peut être deux choses. Mais depuis l'année dernière, depuis probablement la pause du match des étoiles la saison dernière, j'ai l'impression que Kotkaniemi et Julien sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde sur son utilisation, sur ce qu'ils veulent aller au même endroit, ou est-ce que les moyens que le coach utilise pour pouvoir aller chercher le meilleur de Kotkaniemi, est-ce que le jeune le comprend tout à fait, puis est-ce qu'il, dans le fond, ce n'est qu'un joueur, alors il doit accepter les décisions, il doit fonctionner, puis il n'est pas partie prenante de la décision, mais j'ai pas l'impression, tu sais, qu'on utilise l'expression en anglais souvent buy-in. Est-ce que Kotkaniemi buy-in la façon dont son coach l'utilise?
Mais oui et non, je dirais. C'est sûr que je pense qu'une chose que Kotkaniemi comprend, c'est que il faut qu'il produise pour être utilisé plus. Il faut qu'il donne pas le choix à Claude Julien que de l'utiliser plus souvent. Il y a un exemple criant cette saison en regardant la façon que Nick Suzuki a monté les échelles, peut match par match, il a démontré à Claude Julien, puis il a laissé plus le choix à Claude Julien que de l'utiliser dans un rôle important à cause du fait que non seulement sa production, mais juste à quel point il est efficace sur la glace, à quel point il a démontré que ses habiletés sont valables, offrent une valeur à Montréal de donner plus de minutes, plus d'importance. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, qu'il y a une certaine... Tu sais, c'est pas... Ta question est pertinente parce que c'est pas clair si Kotkaniemi comprend tout à fait ce que Claude Julien fait avec lui. Puis ça a commencé à mes yeux quand il a été laissé de côté en Californie l'année passée.
Ouais.
C'était le match contre Los Angeles, je me rappelle, je parlais de lui. Parce que l'entraînement, le jour avant le match... tout d'un coup, il y avait Jonathan Drouin à sa gauche, qu'on avait, c'est une expérience que Claude a tenté pendant le camp d'entraînement et pour commencer la saison. Ça n'a pas duré longtemps. Drouin s'est retrouvé avec Max Domi, ils sont partis en feu. Alors il n'a jamais retrouvé Jonathan Drouin après. Alors après cet entraînement-là, j'allais voir Kotkaniemi puis je lui ai dit, ça pourrait être bon que tu trouves une certaine chimie avec Drouin, non seulement pour cette saison, mais pour l'avenir, parce que Jonathan est quelqu'un qui va être ici vraisemblablement pendant longtemps, Kotkaniemi aussi. Alors c'est dans ce cadre, dans cette optique-là que je parlais avec lui après l'entraînement, puis Kotkaniemi avait vraiment hâte de jouer avec Drouin ce jour-là. Il n'avait aucune idée qu'il serait laissé de côté le lendemain, mais finalement, c'est ça qui est arrivé. Et je suis pas certain qu'il a vraiment compris le pourquoi à cette époque-là. Puis le fait que Claude Julien sort pour dire qu'il a l'air fatigué, puis le lendemain à San Jose, Kotkaniemi dit que non, je suis pas fatigué, ça montre à quel point que il acceptait pas le raisonnement du coach. Puis je pense même qu'il aurait préféré que Claude Julien dise, écoute, il joue pas bien, alors je sors de l'alignement. Mm-hmm. Mais d'utiliser l'excuse du fatigue, il voulait pas l'accepter. Et depuis ce temps-là, effectivement, c'est difficile à dire qu'ils sont sur la même page, coach et joueur. Mais est-ce que c'est un désastre? Non, c'est pas la première fois qu'un jeune joueur est pas sur la même page avec son coach. Particulièrement un coach, un vétéran coach qui a certaines valeurs qui sont importantes à lui, que peut-être sont pas les mêmes valeurs que priorité le jeune joueur. Mais ça va être important que... Tu sais, en ce moment-là, ce qui est important avec Kotkaniemi, à mes yeux, c'est juste une bonne communication entre les entraîneurs, si c'est Claude Julien ou si c'est Kirk Muller, que Kirk a une bonne relation avec Kotkaniemi, on s'entend. Mais quelqu'un a besoin de lui communiquer qu'est-ce qui va pas. Puis ça se peut que c'est ça qui est arrivé à Buffalo. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas le cas en Californie l'année passée.
Ouais.
Personne l'a vraiment expliqué pourquoi il était sorti de l'alignement. Puis lui, il acceptait pas le fait qu'il était fatigué. Alors, il fallait que quelqu'un dise, OK, écoute, t'as l'air fatigué à cause de ça, ça, ça. Alors, si c'est le fatigue ou si c'est juste le fait que tu joues pas bien, c'est ça qu'on a besoin que tu corriges. Et cette discussion-là, j'ai jamais eu l'impression que quelqu'un l'a eu avec lui. Alors, moi, j'espère au moins que cette fois, il y a eu une discussion quelconque pour l'expliquer exactement pourquoi. Et non seulement l'expliquer, mais le montrer, de le rentrer dans la salle de vidéo, dire, écoute, là, t'aurais dû faire ça, t'as fait ça au lieu de ça, puis c'est ça qu'on veut. Et on te l'a dit plusieurs fois, puis tu continues à faire cette erreur-là. Alors, c'est pour ces raisons-là, et on va le montrer clairement, qu'on te sort de l'alignement. Et ça, c'est là où la question de développement contre les victoires devient importante, parce que tu peux encore, en sortant de la formation, tu peux quand même avoir de la développement si tu l'approches de cette façon-là.
Oui.
Et je suis pas certain que ça arrive avec lui en ce moment.
Tu mentionnais tout à l'heure la question du mérite. Je pense que ça aussi, c'est une forme de développement d'apprendre à un joueur qui est talentueux et en qui tu fondes beaucoup d'espoir, de dire, ben, il va falloir que tu le gagnes, que tu gagnes toi-même tes galons, puis que tu prennes les moyens pour que ce que tu espères avoir, puis ce que nous, on attend de toi, ben, tu puisses le fournir, parce que c'est pas parce que tu as été un troisième choix overall au repêchage que tout va t'être dû anyway, tu sais.
Non.
Et de cette manière-là, puis ça va aussi pour la façon dont on utilise son trio ou quels alliés on va lui donner. Parce que je sais qu'il y a plusieurs partisans qui disent « Ah, mais là, Kotkaniemi, regardez avec qui il a joué cette année, faudrait lui donner de meilleurs alliés, puis il produirait davantage. » Mais encore là, c'est une question de mérite. Si t'as des joueurs efficaces, des joueurs productifs, ben eux peut-être qu'ils vont dire, ben là, regarde le kid, je l'aime bien, il est bien gentil, il a un beau sourire, mais en ce moment, c'est pas lui qui tire la charrette, là.
Ouais.
Pourquoi tu me mettrais avec lui? Alors, là aussi, je pense que la question du mérite, au sein même de la composition des trios, ça rentre en ligne de compte, puis ça doit partir de lui. Personnellement, j'ai pas un grand espoir qu'il vire sa saison de bord cette année. Je pense que c'est quelque chose qui va surtout être initié au courant de l'été, puis il doit revenir et rebondir la saison prochaine, puis arriver avec une troisième saison dans la Ligue nationale beaucoup plus convaincante. Mais je suis pas certain en même temps du tout que de le renvoyer à Laval, de la même manière qu'on vient de renvoyer Kyle Fleury à Laval, soit la meilleure façon de fonctionner. Parce que c'est probablement, peut-être qu'il pourrait le prendre, encore là, ça dépend beaucoup de la façon dont c'est présenté,
ouais.
Puis quel projet on décide de lui vendre, puis dans quel contexte on prend cette décision-là. Mais ça pourrait potentiellement être perçu davantage comme une claque d'en face que simplement d'être laissé de côté pour un match ou deux.
Oui, absolument. Puis comme tu as mentionné dès le départ, l'envoyer à Laval, c'est, il y a pas grand chose à, il y a pas de gain à faire en l'envoyer à Laval. Tu sais, s'il fait un point par match à Laval, tout le monde va être bof, whatever. Tu sais, c'est comme, j'espère qu'il fait ça.
Ouais.
Tandis que s'il fait comme, je sais pas, s'il y a comme 10 points en 15 matchs, tout le monde va être comme, ah, ben là, qu'est-ce qui se passe avec Kotkaniemi? Il est pas en train de dominer dans la Ligue américaine, puis 10 points en 15 matchs, c'est pas mauvais, là.
Non, mais s'il y a la même production que Jake Evans, on dit, ben là, c'est quoi la différence?
C'est le choix de 7e ronde, tu sais, mais une chose que je veux revenir là-dessus, ça me fait penser, c'est que, une chose qui est importante à retenir là-dedans, c'est que, tu sais, Kotkaniemi a eu une blessure majeure pendant toute sa carrière. Tu sais, il avait une blessure au genou quand il avait 15 ou 16 ans. 16 ans, je pense. Puis, tu sais, il est revenu de cette blessure-là, puis il continue à performer à un haut niveau. Alors, dans le fond, il n'a jamais eu une saison difficile comme il est en train de connaître en ce moment. C'est la première fois de sa vie qu'il connaît, qui est dans ces circonstances-là. Et ça lui, tu sais, c'est pas comme il est le seul jeune joueur à jamais connaître une mauvaise saison avant d'arriver à la Ligue nationale. Sauf que c'est quelque chose qu'un joueur doit apprendre à vivre avec et doit apprendre comment s'en sortir de cette situation-là. Puis je suis pas sûr qu'il y ait vraiment les moyens encore de le faire. Parce que non seulement qu'il n'y a jamais eu une mauvaise saison, mais il n'y a jamais eu une mauvaise saison étant donné qu'il était tout le temps dans des circonstances où le monde s'attendait pas à grand-chose de lui parce qu'il jouait dans un niveau tellement plus haut qu'il aurait dû être. Tu sais, comme quand il avait 16 ans, il jouait U19. Quand il avait 15 ans, il jouait U18. Tu sais, il a toujours joué pour des équipes où tout le monde s'attendait qu'il suivrait pas, puis finalement, il a fini par devenir un important joueur sur cette équipe-là. Alors, sa première fois de sa vie, et on s'entend, sa vie, ça fait 19 ans qu'il est sur la terre, là, mais de sa première fois de sa vie, qu'il vit une situation comme ça, puis je pense qu'il y a des choses à retenir pour lui aussi. Tu sais, il peut revoir un peu comme sa préparation estivale, il peut revoir un peu comment faire les autres choses qui permet au coach de dire, OK, il marque pas, mais au moins il fait ces choses-là.
Mm-hmm.
Ça, je suis pas certain que c'est quelque chose qui a appris nécessairement, puis c'est quelque chose qu'il doit apprendre. C'est parce que tout le monde connaît des creux dans la Ligue nationale. Même les meilleurs joueurs de la Ligue connaissent quelques matchs où ça va pas bien, mais il faut quand même contribuer au succès de l'équipe, même si tu contribues pas d'une façon tangible avec des buts et des passes, là, il faut faire d'autres choses, puis c'est un peu ça, peut-être.
Mais il doit apprendre
comment s'en sortir de cette situation-là, puis je suis pas sûr qu'il le sait en ce moment.
Mais quand tu dis il n'a pas encore les moyens d'y arriver, est-ce que tu penses que c'est des moyens qu'il doit trouver par lui-même, ou c'est des outils que son environnement doit l'aider à, doit lui fournir?
Ben, je pense que c'est les deux. Lui, il doit accepter le fait. T'sais, lui, à sa part, à jouer là-dedans. Là. C'est bien correct, puis c'est bien justifiable de dire il y a juste 19 ans, parce que c'est vrai. Je pense qu'il est 5e ou 6e plus jeune joueur de la Ligue nationale, et dans sa deuxième année, c'est assez rare comme circonstance. T'sais, c'est comme, ça arrive pas tout le temps. Alors ça, c'est un fait. Okay? Alors c'est la raison principale pourquoi le monde devrait peut-être juste respirer un peu quand tu penses à lui, puis juste essayer de voir à long terme qu'est-ce que ce joueur deviendrait, parce qu'il, tu sais, quand même, il y a un an plus jeune que Nick Suzuki. Tu sais, il y a un an plus jeune, ou même deux, si je me trompe pas, mais il est plus jeune que Ryan Poehling aussi.
Ouais.
Il est plus jeune que la plupart des joueurs de la ligue. En fait.
Presque tous.
Presque tous, à part cinq ou six. Alors, ça c'est vrai. Mais, en même temps, alors, à cause de ça, oui, son environnement a un important rôle à jouer à comment il perçoit ces difficultés-là. Okay, il y a besoin d'un certain encadrement que la plupart des joueurs de la Ligue nationale ont peut-être pas besoin. Il est spécial dans cet égard-là. Mais ça revient aussi à lui d'accepter ces choses-là, puis de voir ce qui va pas bien, puis d'être capable de recevoir le message. Dans le fond, les deux bords ont une certaine responsabilité là-dedans. Je pense que lui, selon ce que tout le monde dit autour du Canadien, lui, il est capable de prendre des messages. Lui, il est capable d'accepter des corrections à faire ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il prend ces messages-là? Est-ce qu'il les applique dans son jeu? Ça, je suis pas certain s'il a bien appris comment faire ça. Ouais. Encore. Mais c'est sûr que ça serait le fun de savoir, on le sait pas, mais à quel niveau les communications est ouverte entre lui puis le personnel d'entraîneur, je veux juste pas dire, parce que je pense qu'on s'entend que Claude communique pas beaucoup avec tous les joueurs sur une base individuelle. C'est pas son façon de faire.
Non, il fait des fois, au terme des entraînements, 3 ou 4 minutes, petite discussion sur la glace, etc., ouais. Mais c'est pas,
C'est rare qu'il va demander à un joueur de venir le voir dans son bureau. Ça a l'air que ça arrive pas trop souvent. Alors, c'est ses assistants qui doivent le faire. Est-ce que cette ligne-là est ouverte? On sait pas. C'est difficile à dire. Et à quel point le joueur lui-même est réceptif à ces messages-là, s'ils sont passés, ça aussi, on sait pas vraiment.
Mais ce qui est certain, c'est que peu importe que ce soit que les gens s'énervent parce qu'il a été laissé de côté à Buffalo, que d'autres disent « renvoyez-le à Laval pour jouer » ou le Canadien qui a sa propre idée sur la façon dont ce joueur-là doit être développé. Ce qui est clair, c'est que tout le monde souhaite que ça fonctionne. T'sais, ça, c'est
ben ouais.
Ça, il y a aucun doute là-dessus. C'est dans l'intérêt de tout le monde chez le Canadien de faire en sorte de trouver une façon que ça puisse fonctionner. Mais je pense qu'à cet égard-là, il y a une pression, veut pas, qui monte rapidement en raison des succès de Brady Tkachuk à Ottawa, et même, je te dirais, des succès de Quinn Hughes avec les Canucks de Vancouver. Ouais. Le Canadien a préféré Kotkaniemi à Tkachuk. Ils se sont dit, nous, on est... Quinn Hughes, c'est un espoir intéressant en défense, mais des petits défenseurs, on en a déjà. On a déjà Victor Mété. Croyez-le ou non, c'est quelque chose que j'ai entendu. Donc, ça fait en sorte que quand tu vois des joueurs de la même... Du même repêchage qui ont un succès, un impact immédiat sur leur équipe, puis tu vois ton grand joueur de centre dont le développement est plus lent, c'est normal que ça inquiète des gens, ça mette tout le monde sur le bout des pieds, mais sauf que c'est bon dans ce temps-là de prendre un pas de recul, prendre une grande respiration, puis dire, ça demeure quand même un projet à plus long terme. T'sais.
Ouais.
Et je pense que il y a tellement de gains qui peuvent être faits en l'espace d'un an par un jeune joueur. Tu sais, tu mentionnes Suzuki. Au moment, le Nick Suzuki que les Golden Knights de Vegas ont échangé aux Canadiens, c'est pas du tout la même gamme d'espoir que le Suzuki qu'on voit aujourd'hui.
Ouais.
S'il témoignait il y a 2 ans les signes comme quoi il deviendrait un joueur de cette trempe-là, les Golden Knights l'auraient pas laissé partir. Non. Il y avait des choses qui manquaient à son jeu, dont des choses auxquelles il croyait plus ou moins, puis ils se sont dit... Parmi nos jeunes joueurs, Suzuki, c'est celui dont on peut se départir. Mais il y a une croissance incroyable dans son jeu au cours des 12 derniers mois. C'est assez phénoménal. Puis ça fait en sorte qu'il est devenu un véritable joueur de la Ligue nationale. Puis il a mérité sa place au sein d'un top 6. Mais je vois pas pourquoi la même chose pourrait pas se faire au cours des 12 prochains mois avec Kotkaniemi.
Absolument, parce que dans le fond, si tu prends ça en contexte, ok, on parlait tantôt du fait de... C'est la décision qu'il fallait prendre d'envoyer Kotkaniemi au championnat du monde junior ou non. Ce qui veut dire qu'il est encore éligible pour le championnat du monde junior. L'année passée, au championnat du monde junior, Nick Suzuki faisait partie de l'équipe Canada. Il a connu un mauvais tournoi. Et Marc Bergevin est allé le voir après le tournoi, puis il dit, écoute, c'était pas super ton tournoi. On s'entend, il y a des améliorations à faire. Puis Suzuki a pris ça, puis l'a accepté, puis écoute, il était peut-être pas entièrement d'accord avec son évaluation, mais il avoue que il était pas à son mieux. Mm-hmm. Pendant ce tournoi-là, qui est un court tournoi, on s'entend. Mais le fait que ce message-là a passé de Marc Bergevin à Nick Suzuki, mais Nick Suzuki a pris ce message-là, il est retourné à son équipe, il s'est fait échanger tout de suite après, je pense, si je me trompe pas, de Owen Sound à Guelph.
Pas loin, dans ces
eaux-là. Puis il a procédé à aller sur, à continuer sur, tu sais, en rentrer en série, puis il a connu des séries qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans la Ligue de l'Ontario. Là. C'est même, non seulement lui, mais l'équipe de Guelph lui-même, et lui, c'était clairement le meneur de cette équipe-là. Alors, le développement, dans son cas, de ce championnat du monde junior-là, au dernier championnat du monde junior, où Nick Suzuki était devenu déjà un joueur de top 6 chez les Canadiens de Montréal, est assez hallucinant, qu'est-ce qui est arrivé dans l'espace de 12 mois. Comme tu mentionnes. Alors, puis non seulement que c'est arrivé dans l'espace de 12 mois, mais ça représente le même âge que les prochains 12 mois va représenter pour Jesperi Kotkaniemi.
Ouais.
Alors, c'est quelque chose de garder en perspective. Mais l'important là-dedans, je pense, c'est la discussion que Marc Bergevin a eue avec Nick Suzuki. Est-ce que quelqu'un est en train d'avoir cette discussion-là avec Jesperi Kotkaniemi? C'est ça la question que je me demande.
Oui, c'est ça. Prendre les commentaires, puis après ça, les tourner à ton avantage, puis prendre les moyens, finalement, pour pouvoir passer à l'étape supérieure.
Ouais. Une autre chose que je voulais juste ajouter sur ce sujet-là, avant qu'on... Mais aussi, dans ces décisions-là, il faut jamais oublier la dynamique entre la direction de l'équipe et le personnel d'entraîneur. Ils ont deux priorités différentes. La direction de l'équipe veut gagner des matchs, c'est sûr, mais il regarde ça plus à long terme, puis voit c'est quoi le mieux pour ce joueur-là qu'on a dépensé un actif qui avait beaucoup, beaucoup de valeur sur ce joueur-là. Alors, on a beaucoup investi dans ce joueur-là. C'est quoi le mieux pour lui, tandis que les entraîneurs pense à remporter un match à Buffalo. Là.
Oui,
c'est pas mal. Alors, il y a aussi cette dynamique en jeu maintenant, puis c'est difficile pour moi de dire à quel point peut-être que... Tu sais, je pense que Claude Julien... Tu sais, Marc Bergevin n'appelle pas Claude Julien pour lui dire qui mettre dans sa formation. Ça, c'est quelque chose... Il parle à chaque jour, puis c'est des discussions, mais finalement, la décision revient à Claude Julien. Puis je pense que Marc Bergevin est très... respectueux de cette position-là, mais il faut se demander aussi, est-ce que si c'était la décision de Marc Bergevin, est-ce qu'il aurait fait le même chose?
Ça, c'est une problématique qui arrive davantage quand une équipe, au sein d'une équipe qui a des difficultés. Quand l'équipe gagne, le court terme et le long terme se mélangent les deux ensemble, puis ça crée pas de problématiques, de friction. Tandis que quand tu as une équipe qui est en difficulté, puis là, tu sais, il y a des gens qui parlent de tanking, il y a les considérations court terme, long terme, c'est à ce moment-là où le mariage entre les deux devient plus difficile, puis on l'a vu hier aussi, le Canadien affrontait une équipe, les Sabres de Buffalo, qui patauge dans des eaux un peu semblables aux Canadiens, puis ça a l'air encore plus... Encore, je veux faire un détour par Buffalo, parce que eux, ils m'apparaissent tellement être dans des sables mouvants. C'est comme si, tu sais, le Canadien est depuis une génération, une équipe de milieu de peloton. À chaque fois que tu fouilles des statistiques d'équipe, on dirait que le Canadien arrive toujours 18, 19, 20e dans à peu près tout, tu sais.
Ouais.
Sauf, bon, le rendement à 5 contre 5 sous Claude Julien, ça a été un peu mieux. Mais sauf que le Canadien est environ l'équipe 19, 20e depuis très longtemps. Et tu dis, ben là, ça tourne en rond, on n'est ni une bonne équipe, ni une équipe en reconstruction, c'est frustrant, ça teste la patience des partisans. Mais à Buffalo, ils sont dans des sables mouvants, puis au lieu d'être 19, 20e, eux autres, c'est 24e, 25e, et ils semblent pas avoir d'espoir de s'en sortir. Et pourtant, c'est une équipe qui est passée par ce processus-là de dire, nous, on va reconstruire, on va essayer d'aller chercher Connor McDavid. Finalement, leur prix de consolation, ça a été Jack Eichel.
C'est une bonne prix de consolation, on s'entend.
Oui, exactement, mais il m'apparaît un bon gars joueur. De plus en plus difficile à consoler, par exemple, lui.
Ben écoute, ça se comprend un peu à cause tu regardes juste ce qui s'est passé pendant sa carrière, tu sais, ils sont touchés le bas fond de la ligue. Par exprès, on s'entend, ils l'ont jamais avoué, là, mais on s'entend c'est par exprès. Ils ont quand même eu un super bon joueur. Tu sais, Jack Eichel a marqué son 30e but de la saison contre le Canadien. Là, c'est un joueur qui produit, c'est un joueur qui... La seule raison que les Sabres sont dans les mêmes eaux que le Canadien en ce moment, c'est à cause de Jack Eichel.
Oui.
On s'entend. Alors, ils ont des bons joueurs. Ils ont Rasmus Dahlin, premier choix au total. Super bon défenseur, plein de talent. Jack Eichel, super bon attaquant, plein de talent. Ils ont d'autres jeunes, tu sais. Moi, quand on parle de Jesperi Kotkaniemi, je pense à Sam Reinhardt des fois. C'est comme, ouais. C'est le pire scénario qui pourrait, tu sais, un troisième choix au total aussi, avec plein de potentiel. Était un centre, était déplacé à l'aile, et maintenant c'est juste un joueur plus ou moins moyen de la Ligue nationale. Là. C'est peut-être un peu au-dessus de la moyenne, mais pas un choix de troisième ronde.
Un choix troisième au total,
je veux dire. Alors, tu sais, il y a un certain aspect où tout le monde dit, ah, les Penguins, ils ont fait ça, puis ils ont gagné 3 Coupes Stanley. Les Blackhawks ont fait ça, ils ont gagné 3 Coupes Stanley. Il y a d'autres exemples des équipes qui ont fait comme une reconstruction totale. Ils ont reçu le premier choix au repêchage, puis ils ont terminé en fait, il y en a pas plein, il y en a juste une coupe. Puis ces deux-là, en particulier, qui sont souvent cités, mais on cite rarement les Sabres pour dire, écoute, ça c'est l'autre côté de la médaille. On cite pas les Oilers, ça c'est l'autre côté de la médaille, où tu perds tellement que ça devient comme une habitude de perdre. Ouais. Je pense que la réaction de Jack Eichel après que Thomas Tatar a marqué dans le filet des heures à Buffalo, tu sais, Jack Eichel, il s'est glissé dans le filet, il voulait tout faire pour prévenir ce but-là, puis il a fracassé son bâton contre le filet après. Tu voyais la frustration de ce gars-là qui voit... Qui reconnaît son propre talent, qui voit les autres joueurs de son âge qui sont sur des équipes qui ont peut-être plus de succès, puis voit pas la lumière au bout du tunnel à Buffalo. Et je pense que les partisans le voient pas, les médias le voient pas. C'est une culture là où c'est devenu pesant. Et c'est ça que tu veux éviter. Tout le monde qui dit, bon, ben, tank, il va chercher le meilleur choix possible. Il y a une certaine conséquence à ça quand tu rends le repêchage ton priorité. Oui, tu vas aller chercher un bon joueur, mais c'est quoi l'impact que ça va avoir sur tes joueurs actuels? C'est quelque chose à prendre en considération, puis je pense que ça fait pas partie de la discussion ici à Montréal. C'est pas assez. Il n'y a pas assez d'importance placée là-dessus.
Non, puis c'est parce qu'il y a toujours un risque de complaisance, tu sais, à un moment donné que tu sais, tout le monde veut gagner, mais il y en a qui veulent moins perdre que d'autres. Tu sais, il y en a qui détestent plus perdre que d'autres. C'est ce que je veux dire.
Et Marc Bergevin a utilisé ces mots-là exact. Là, ouais. Ça fait comme 3 ans. Là, je pense quand il est allé chercher un Duchamp.
Ben voilà. Donc de refuser la défaite, à un moment donné, il faut avoir la coinsure quand les insuccès s'accumulent. Puis tu sais, tu regardes, les Sabres ont changé de directeur général 3 fois.
Ouais.
Ils ont changé ils ont fait plusieurs changements d'entraîneur.
Je pense que Kruger, c'est leur 6e entraîneur depuis 2012, quelque chose comme ça.
Écoute, ça n'a aucun sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est les portes tournantes, des changements de joueurs également. Puis tu sais, ils avaient amené Evander Kane à un moment donné, puis Zach Bogosian. Je pense qu'en termes de culture d'équipe, c'était peut-être pas les joueurs les mieux identifiés pour ça. Ils ont amené Ryan O'Reilly, ils l'ont échangé par la suite. Il y a eu un mouvement de personnel incroyable, puis finalement, t'as l'impression que c'est une équipe qui, ayant misé sur leur repêchage à un certain moment donné, c'était peut-être beau d'avoir leur choix de première ronde, mais après ça, il faut que tu regardes aussi, dans les rondes subséquentes, est-ce que t'es capable d'aller chercher des joueurs d'impact un peu plus tard. Puis c'est là où j'ai l'impression que le Canadien et les Sabres se rejoignent un peu. C'est qu'il faut que tu sois capable d'aller chercher des éléments, des joueurs d'impact dans toutes les rondes du repêchage. Le Canadien a reçu la visite la semaine dernière des Capitals de Washington. une équipe, tu peux dire, ah, ben, il y a longtemps, quand ils étaient mauvais, ils sont allés chercher Ovechkin. OK? Mais ça, ça fait 15 ans de ça.
Ouais.
T'as eu Ovechkin, t'as eu Backstrom, et un peu plus récemment, t'as eu Yevgeny Kuznetsov.
Qui était quand même un choix en fin de première ronde.
Exact.
C'est pas un autre choix. Là.
Non, exact. Lui, on était en pleine mode du facteur russe.
Ouais, absolument.
Qui vraiment décotait les joueurs russes. Ouais. Alors, eux autres, ils ont misé sur ce gars-là.
Ouais. Et éventuellement, même raison que Kucherov s'est retrouvé à Tampa.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Mais quand tu regardes les Capitals de Washington, ils ont pas eu besoin d'avoir une multitude de choix top 10 pour se maintenir au fil des ans. Jakub Vrana, 24 buts l'année passée à l'âge de 22 ans. C'est lui qui s'est illustré le plus à Montréal. Il explose cette année. Samsonov, le gardien de but, il va peut-être être leur gardien
l'année prochaine.
Ouais. C'est un choix 22e au total. Bon, ils ont fait l'erreur d'échanger Philip Forsberg, mais quand même, Forsberg l'avait choisi en
9e, je pense.
Même pas, je pense, 11.
Ouais. Mais c'était l'année Galchenyuk, là.
C'était ça. Je pense qu'ils ont choisi 11e.
2013.
Ils ont eu Tom Wilson la même année, 16e.
En 2012,
oui. Burakovsky, un autre choix qui, lui, le Canadien a préféré Mike McCarron plutôt qu'André Burakovsky. C'est un gars qui a été échangé, mais tu vois dans sa nouvelle équipe qu'il y a quand même un potentiel. Tu sais, c'est plusieurs joueurs qui n'ont pas été des choix top 10, mais qui permettent à une équipe qui a eu ces bonnes fondations-là il y a 10 ans, de se maintenir à flot puis de demeurer une puissance de la Ligue nationale. Alors, mm-hmm. Je pense que il y a aussi, c'est beau de dire on va piquer du nez puis on va aller chercher des choix repêchage, mais il va falloir que ces choix repêchage-là, ils rapportent un moment donné.
Oui, puis juste pour renforcer ton point, c'est pas en repêchant Ovechkin que les Capitals ont remporté la Coupe Stanley. Oui, il était un joueur important, comme Kuznetsov, comme Backstrom, mais la raison pour laquelle les Capitals ont remporté la Coupe Stanley, c'est effectivement tous ces autres joueurs-là qui les ont permis. Tu sais, Lars Eller qui joue sur le troisième trio quand c'était qui s'est blessé pendant les séries? C'était Backstrom ou Kuznetsov? C'était un des deux qui manquait à l'appel, puis Eller, il fallait qu'il monte dans le top 6, puis il a super bien performé. C'est cette profondeur-là que t'as besoin, puis s'il y a une chose qui est devenue criante cette saison à Montréal, c'est à quel point il n'y avait pas assez de profondeur. Il y avait une profondeur, c'est bizarre à dire, parce que dans le fond, quand l'équipe est en santé, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur, dans le sens où t'as beaucoup de talent sur chacun des trios, t'as une profondeur de talent, sauf qu'aussitôt que t'avais une blessure, ou deux en fait, le 15 novembre, quand le Canadien a perdu Jonathan Drouin et Paul Byron, tu peux littéralement faire une ligne. Et regardez tous les chiffres avant, tu sais, ils étaient 11, 5 et 3 à l'époque, puis depuis ce temps-là, je pense qu'ils ont remporté, je pense que c'est leur 12e victoire depuis cette date-là hier soir. Il était juste l'équipe et l'organisation au total est pas bâtie pour compenser ces blessures-là. Mais moi, je suis de l'avis que t'as entièrement raison, mais le dernier test pour la gang de Trevor Timmins, là, c'est les deux dernières années. Ils ont plus qu'une vingtaine d'espoirs qu'ils ont repêché. En deux ans, ils vont en repêcher un autre, 10, 12. Ils ont 11 choix en ce moment. Qui sait combien ils vont avoir après la date limite des échanges. Mais ces trois repêchages-là sont les trois premiers, mais pas trois premiers, mais c'est la première fois que trois années de suite, l'équipe a plusieurs choix dans ces rondes-là, dans deuxième, troisième, quatrième ronde. Ce qui leur donne plusieurs opportunités d'aller frapper un coup de circuit.
Ouais.
Dans plusieurs des années avant, vu que l'équipe était un peu compétitive, tu sais, un deuxième choix pour Jeff Petrie, un deuxième choix pour Thomas Vanek, un deuxième choix, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de choix de deuxième ronde que Trevor Timmins avait à sa disposition. Là, il l'a eu. Il va l'avoir encore ici à Montréal. Et c'est ça le dernier test, à mon avis, pour ce groupe-là, parce qu'il faut que tu trouves 2, 3, 4 même joueurs de la Ligue nationale qui ont pas été choisis en première ronde, mais qui ont été choisi dans les prochaines rondes, tu sais, comme je pense à Mathias Norlander, si ça pourrait devenir un joueur important dans la Ligue nationale. Il faut trouver ces gars-là dans ces rondes-là, puis on va le voir en qu'est-ce qui va arriver dans les 2-3 prochaines années. S'ils étaient capables de trouver ces joueurs-là dans les tard dans le repêchage.
Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, on le dit depuis longtemps, c'est le talent de pointe qui est problématique chez le Canadien. C'est une équipe qui travaille fort, qui est bien structurée et tout, mais le talent de pointe ne se compare pas vraiment aux bonnes équipes de la Ligue. Alors, espérons que justement, au-delà du choix de première ronde, est-ce que dans la Banque d'espoir du Canadien, il y a quelqu'un qui va émerger puis qui va démontrer qu'il a justement ce talent-là? Ça reste à voir. En terminant, tu mentionnais la profondeur. Là, le Canadien vient de céder Cale Fleury au Rocket de Laval. Il se retrouve avec 6 défenseurs. Comment tu vois la suite de la situation en défense pour le Canadien? Est-ce que tu penses que c'est une mesure qui est juste temporaire, on le renvoie là, un peu dans un esprit des remises en forme où on envoie un gars jouer 3-4 matchs puis on le ramène après? Ou penses-tu que c'est quelque chose qui est à plus long terme? Le Canadien ne pourra pas rester sans défenseur réserviste et inutilement, éternellement, dis-je. À un moment donné, il y a un Christian Follin de ce monde qui va être appelé ou un gars de même aussi.
Ouais, absolument. Puis... Mais je pense que c'est important que Cale Fleury joue. C'est pas exactement la même discussion qu'avec Jesperi Kotkaniemi, parce qu'on sait pas combien de temps Kotkaniemi serait pas dans l'alignement. Ça fait déjà plusieurs matchs que Fleury a passé son tour. Si c'est le cas, et si ça serait le cas pendant plusieurs matchs à suivre, c'est la bonne décision de le renvoyer à Laval, le faire jouer, reprendre un peu de rythme. Tu sais, c'est une chose de l'envoyer à Laval pour reprendre une confiance, mais à un certain point, si tu joues pas, il faut que tu joues dans des matchs. Ça, c'est clair. Il y a quoi, 21 ans, Cale Fleury? Ouais. Alors, c'est important. Je pense que la saison de Cale Fleury, peu importe s'il reste à Laval le reste de la saison ou il revient après quelques matchs, la saison de Cale Fleury, c'est un succès. Ouais, c'est un succès retentissant. Personne s'attendait que ce gars-là allait jouer dans la Ligue nationale cette saison. En fait, ce qui arrive maintenant, c'est l'attente pour Cale Fleury au début du camp d'entraînement, c'est qu'il allait jouer sa deuxième saison professionnelle à Laval, puis il va juste bâtir sur la bonne saison recrue qu'il a eu l'année passée. Il a mérité une place sur l'équipe en connaissant un camp d'entraînement vraiment exceptionnel, mais il a pu suivre. Mm-hmm. Plus la cadence des matchs augmentée, il avait pas l'air d'être hors de sa place. T'sais, il avait pas l'air mal placé dans la Ligue nationale jusqu'à récemment. Puis je pense que c'est justifiable d'une certaine mesure que on voyait plus souvent des erreurs de Fleury qui avaient comme résultat avoir des bonnes chances de marquer pour l'équipe adverse. Alors c'est justifiable d'une certaine mesure parce que, encore une fois, la priorité de Claude Julien et ses entraîneurs, c'est le prochain match. Et il voyait trop d'erreurs qui terminaient avec des chances de marquer de l'équipe adverse qui disait « OK, on peut plus faire jouer ce gars-là ». Alors, ça étant le cas, l'envoyer à Laval, c'est une bonne décision. Est-ce qu'il va revenir? Je suis pas sûr. Mais à un moment donné, tu as raison qu'ils vont... Mais c'est clair qu'avoir Christian Follin comme ton septième défenseur, c'est préférable à avoir Cale Fleury comme ton septième défenseur.
Bien sûr, avoir un gars qui... Surtout si tu as identifié les 6 avec qui tu veux aller de l'avant, au moins jusqu'à la date limite des transactions. J'ai hâte de voir quel impact ça va avoir aussi sur Brett Kulak. Moi, je suis pas prêt à démissionner sur ce défenseur-là. Il a montré trop de belles choses l'année dernière pour qu'on se dise, il revient un joueur marginal, un huitième défenseur, puis tu peux pas gagner avec lui. Il a pas eu une très bonne saison, mais c'est un gars dont le jeu est tellement affecté par le niveau de confiance, selon qu'il soit haut ou bas, que là, si on lui dit, ben regarde, là, t'as un rôle, et puis tu vas jouer, je sais pas combien de minutes il a joué hier, mais il a quand même joué passablement. Il y avait pratiquement des minutes de top 4 hier. Si ça peut avoir un impact positif sur lui de se sentir moins constamment entre deux chaises, puis que bon, il y a un poste régulier, ça pourrait soit l'aider à se relancer au sein du Canadien, ou qui sait, ça pourrait être un atout de plus si le Canadien juge que c'est un gars qui pourrait être échangé à la date limite des transactions.
Oui, je pense que les 2 ans qui restent à son contrat, c'est complique cette affaire-là pas mal. Là. C'est...
Ouais, mais il gagne pas un prix astronomique. Non,
il gagne pas un prix.
À un moment donné, avoir un gars qui est sous contrat, avoir une certitude des coûts, c'est pas une mauvaise affaire. Au lieu d'avoir un gars qui dit ah ben là, il en reste plus.
Pour non, je sais, mais on s'entend que la plupart des équipes qui cherchent à ajouter des joueurs à date limite sont des équipes qui, la plupart du fois, le temps, je mets l'emphase là-dessus. Il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ils ont pas beaucoup de marge de manœuvre, non seulement cette saison, mais les saisons à venir. Alors, les autres années à son contrat jouent dans la balance.
Ouais.
De deux façons, en fait. Premièrement, que les équipes qui veulent aller le chercher ont peut-être pas la place dans les deux prochaines années pour le prendre. Puis aussi le fait qu'il soit sous contrat pendant 2 ans, aux yeux du Canadien, probablement augmente sa valeur. Dans le sens où, tiens, on te donne un défenseur qui est capable de jouer dans le top 6 pour moins de 2 millions de dollars par année, sous contrat pendant 2 ans, on mérite d'avoir quelque chose pour ça, pour cette sécurité financière, disons, ou cet atout-là. Le fait que ça soit sous contrat puis tu vas pas le perdre. Alors la combinaison de ces deux facteurs-là me fait questionner la possibilité que Kulak soit échangé. Mais au pire des choses, tu sais, avoir Brett Kulak au lieu de Christian Folling comme ton 7e défenseur dans l'avenir, ça serait une amélioration, on s'entend.
Oh my, ben oui. Ouais. Normal, je pense que Kulak comme 7e, si Kulak est ton 7e défenseur puis t'as confiance aux 6 qui sont en avant de lui, c'est parce que t'as une brigade défensive qui est stable et qui est en très bonne santé.
Alors, c'est ça. Puis je pense que l'avenir du Kulak, si tout va bien,
ouais.
Parce que on s'entend que le Canadien s'attend à ce qu'Alexander Romanov soit à Montréal l'année prochaine. Puis s'il est à Montréal, on s'entend aussi que ce gars-là serait pas envoyé à Laval parce que lui a des options chez lui.
Ouais.
Alors c'est sûr que son contrat va avoir un langage quelconque en disant que si tu veux pas que je joue dans la Ligue nationale, envoie-moi dans le KHL.
Ouais.
Puis that's it. Alors ouais, s'il arrive,
c'est la fameuse clause européenne,
c'est ça.
Qui est très fréquente là.
C'est ouais. Ça. Alors dans ce sens-là, déjà l'année prochaine, on a déjà un défenseur de prévu que tu vas ajouter au côté gauche. Ben Chiarot serait là encore. Victor Mété, en toute vraisemblance, devrait avoir un de ces postes-là aussi, sur le côté gauche. Alors, ça laisse Brett Kulak un peu comme 7e, mais on verra. On verra ce qui se passe avec Jeff Petrie. On verra plein de choses dans les trois prochaines semaines.
Hey tout le monde, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. On va être de retour lundi prochain. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné à Athlétique et à notre catalogue incroyable d'articles, on vous invite à le faire. Vous pouvez aller consulter le athlétique.com/ l'amour du hockey sans apostrophe. Donc d'un seul coup, athlétique.com/l'amour du hockey, et ça va vous donner 40% de rabais sur votre première année d'abonnement. Ça vaut vraiment la peine. Alors merci à tous d'avoir été là, et puis on se retrouve bientôt. Bye bye.